Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème nous amène à évoquer ce soir la classe d'actifs ou même peut-être l'univers d'investissement des actifs privés pour dresser un état des lieux de rentrée et mesurer un peu les enjeux devant nous pour cet univers d'investissement. J'ose même plus l'appeler classe d'actifs parce que c'est un univers d'investissement qui s'est tellement agrandi et qui est devenu beaucoup plus accessible, bien sûr, pour les investisseurs particuliers, notamment ces dernières années. On en parle avec Alexandra Solnik, qui est directeur des relations investisseurs Private Assets, actifs privés chez BNP Paribas Asset Management. Alexandra, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là. En tant que gestionnaire d'actifs de la taille de BNP Paribas Asset Management, vous êtes, j'imagine, présent sur toutes les classes d'actifs dites privées ou alternatives. C'est comme ça qu'on les classifie aujourd'hui. Alexandra, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet univers? De quoi est-ce qu'on parle concrètement? Et surtout, moi, ce qui m'intéresse pour en discuter de plus en plus souvent ces dernières années, c'est que je trouve qu'au sein de cet univers des actifs privés, il y en a pour tous les profils d'investisseurs aujourd'hui.
Oui, alors effectivement, un petit rappel, je vais commencer par ce que ça n'est pas.
Ah,
et après, je vous dirai ce que c'est.
Très bien.
Donc, les actifs privés, par définition, c'est un ensemble de classes d'actifs qui ne sont pas cotées en bourse, donc pas disponibles sur un marché régulé, réglementé. Pour autant, comme vous le mentionnez, on est sur un marché qui se structure, qui se développe. Pour vous donner quelques idées en termes de chiffres, au niveau mondial, alors on estime, ce sont des estimations, on sera autour de 15 000 milliards, donc on est quand même encore sur un faible pourcentage par rapport à l'univers coté.
Ouais.
Pour autant, donc, dans les grandes familles, alors la famille, on va dire la plus connue, qui est majoritaire aujourd'hui dans cet univers d'investissement, on a le monde du private equity, donc des entreprises, donc qui vient en complément de ce qu'on peut voir dans l'univers coté. À côté de ça, on a également de l'exposition, du financement à des projets, on pense à des projets immobiliers, immobiliers de commerce, également des projets infrastructures, dont des biens et des services essentiels, ça peut être des projets éoliens, des parcs, des réseaux de chauffage, la liste est assez longue. Et enfin, on peut aller jusqu'aux investissements de particuliers, donc on peut aller financer des projets de particuliers, donc de petite taille, en regroupant en portefeuille, par exemple, pour la rénovation énergétique. Donc effectivement, l'univers est vaste,
ah oui.
Il est profond, il est riche, et il est riche aujourd'hui parce qu'il s'est développé en termes de profil de risque et de rendement.
Ah, c'est ça.
J'en parlais tout à l'heure, on parlait de l'univers du private equity, donc l'investissement en capital, on dit souvent capital risque corporate, donc on va aller intervenir en fonction des différents besoins des entreprises, soit très tôt, donc tout ce qui est tech, start-up, scale-up, à des projets un peu plus matures, mais pour autant, on peut également investir en s'exposant d'un point de vue du financement. Donc là, on aura des sécurités supplémentaires, on aura effectivement potentiellement moins de risques, mais également moins de rendement, mais on peut s'exposer à cet univers tout aussi large. On pense au financement, évidemment, à la dette d'entreprise, souvent de plus petite taille par rapport au marché coté.
C'est ce qu'on appelle la dette privée, c'est ça, dans la classification du non-coté.
Donc dans le jargon, effectivement, dette privée, mais on peut aussi regrouper dans la dette privée des actifs immobiliers et des actifs infrastructures.
Ouais.
Donc en fait, le panel de rendement est très large, et très large également en thématique.
Ouais.
Puisqu'on est ici vraiment, les actifs privés permettent pour nous, sont au cœur du financement en fait, de la transition énergétique, du développement durable, et vont apporter des solutions, je parlais tech, je parlais infrastructure, pour justement aller financer l'économie verte de demain.
Ouais, il y en a, je le dis un peu très bien, mais il y en a pour tout le monde aujourd'hui dans cet univers d'investissement. Quand je dis tout le monde, c'est chaque profil de risque peut trouver de l'intérêt dans cet univers, cet ensemble de classes d'actifs, j'aime bien comme vous l'avez dit Alexandra, des actifs alternatifs ou des actifs privés. Qu'est-ce qu'on se peut dire spécifiquement du marché européen à l'heure où on se parle, en cette rentrée 2024? On a tous compris que la phase de montée agressive des taux avait été un moment douloureux. Alors on l'a vu nous sur les marchés liquides cotés au quotidien, mais ça s'est ressenti aussi au travers du non-coté des actifs privés. Est-ce qu'on commence à émerger un peu de cette phase? Qu'en est-il justement de la dynamique des levées de fonds? Et quelles sont les stratégies qui sont les plus recherchées aujourd'hui par vos clients investisseurs par exemple, Alexandra?
Donc tout à fait, pour vous donner un panorama sur l'univers européen, qui est l'univers dans lequel on agit en tant qu'expert pour nos investisseurs. Donc en Europe, si on regarde les levées de fonds 2023-2024, au total, en actifs sous gestion, on est à 3000 peu ou prou, 3005 milliards d'actifs sous gestion.
D'accord.
Donc on a là-dedans, on a une croissance, je pense, depuis 10 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, on était à un tiers de ça il y a une dizaine d'années. Donc il y a une réelle accélération depuis 2019. Si vous faites les calculs, on est sur du double digit, enfin plus de 10% de croissance tous les ans.
D'accord.
Pour autant, sur les levées de fonds, 2023, il y a une petite rupture de dynamique où il y a eu un ralentissement des levées de fonds. Les levées de fonds sont toujours positives, on observe toujours une croissance des actifs sous gestion, mais un petit ralentissement comme une hésitation en 2023. On voit cette tendance, si on regarde les chiffres, se prolonger en 2024. 2023, on était à plus de 350 milliards de levées en Europe. Et si on regarde la tendance, je regardais les chiffres hier, alors ça dépend des sources, mais on est à un peu plus de 220 milliards. Estimé,
d'accord.
Avec toutes les réserves, parce qu'on est sur de l'actif privé par construction,
bien sûr.
Les données disponibles publiquement, mais on a cette tendance, on est sur le même cru, on va dire, que 2023, mais un certain ralentissement des levées lié à plusieurs phénomènes. Je pense que le premier, effectivement, on était quand même sur une explosion, donc on a plutôt un stade de maturité du marché, et également devant, on va dire, l'incertitude macroéconomique, la volatilité des marchés au sens large. Les poches, les allocations des investisseurs peuvent se ralentir. En tout cas, les levées de fonds sont deux fois plus longues. Une levée de fonds, donc, en général, c'est fermé, qui, il y a quelques années, prenait peut-être un an et demi. Maintenant, on est plutôt sur du un an et demi, deux ans.
Ouais, d'accord.
Ensuite, on a des tendances fortes qui s'installent. Si on revient sur les classes actives ou les secteurs dont on a parlé tout à l'heure, on a toujours le secteur du private equity qui reste majoritaire, mais qui va plutôt baisser en faveur de d'autres secteurs.
En proportion ?
En proportion,
d'accord.
Exactement. Donc, il est plutôt à 60%. Aujourd'hui, il va être chatouillé en dessous des 50%.
D'accord.
Donc, du total que je vous ai mentionné tout à l'heure, au profit de trois gros secteurs. Alors, le premier, vous l'avez cité, la dette privée. Effectivement, en 2022-2023, on a eu une explosion des investissements en dette privée, puisqu'en fait, si on fait la somme des taux pour certains, des taux variables et de la prime d'illiquidité qu'on va aller chercher dans ce marché, on pouvait aller flirter finalement avec des rendements de capital risque ou de private equity. Alors, évidemment, sur les rendements les plus faibles, on pouvait aller flirter avec parfois des double digit returns.
Ouais.
Ça, les investisseurs l'ont reconnu. En 2023, on est passé de quasiment en allocation de 10 à 18% des levées. 2024 a l'air plus hésitant, vous le mentionnez, avec l'hésitation sur le sens des taux. On va avoir plutôt un tassement de cette classe d'actifs, mais pour autant, elle représente toujours aujourd'hui du total un bon 10% des allocations. Le deuxième est le marché des infrastructures. Je le rappelle, ici, on est sur des biens et des services essentiels. Donc, on pense assez naturellement énergie, transport. Mais ce secteur-là, aujourd'hui, va répondre et va exploser en termes de besoins de financement de la transition écologique que je mentionnais précédemment. Et il y a des nouveaux secteurs qui émergent et des besoins de financement qui paraissent évidents. Évidemment, assez naturellement, on pense à tout ce qui est énergie, toutes les nouvelles solutions, que ce soit autour de l'hydrogène. On pense à tout ce qui est évidemment tout ce qui est chauffage urbain, énergie plus verte, mais pas que. On a des nouveaux secteurs qui sont aujourd'hui acceptés comme reconnus essentiels. On va penser à la digitalisation, donc des tours télécom. On va penser à tout ce qui est fibre optique et également tout ce qui est centre de données vertes, puisqu'ils peuvent aussi fournir une utilisation optimale de l'énergie. Donc ce secteur-là, qui historiquement, on va dire, avant 2019, représentait peut-être un quart des actifs réels, si on prend immobilier, qui est un secteur plus infra. Aujourd'hui, on est plutôt sur du trois quarts.
D'accord.
Et là, si j'ai regardé les derniers chiffres, on est vraiment sur trois quarts infra, un quart immobilier, sur les actifs réels. Donc, on a une vraie tendance de fond qui s'installe dans tous les portefeuilles de nos institutions.
Oui, il y a un nouveau leadership qui se met en place du point de vue de la dynamique de ces marchés avec ces segments que vous citez aujourd'hui.
Tout à fait, qui nous paraît essentiel pour accompagner justement la transformation, les méga tendances, pour citer un mot assez
Connu,
que l'on voit aujourd'hui. Et le petit dernier qui est nouveau, alors qui n'est pas nouveau historiquement, mais qui apparaît un peu dans tous les articles et qu'on voit apparaître dans le portefeuille de nos investisseurs, c'est le capital naturel. Alors, pour reprendre une définition assez dictionnaire, on va dire, du capital naturel, on est sur de la ressource naturelle, biodiversité, utile à l'homme et que l'on peut exploiter d'un point de vue économique et technologique. Alors, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que c'est ? On prend le secteur sur lequel on a le plus de données historiques, le secteur de l'agriculture, par exemple, ou le secteur d'investissement en forêt. Et nous, on est persuadés qu'on peut aller justement investir de manière durable dans ces biens, tout en profitant de rendements attractifs sur le long terme. Donc, encore une fois, pour citer quelques chiffres, on a quasiment un doublement de l'exposition en pourcentage dans le portefeuille des investisseurs.
D'accord.
On est passé de quasiment 7 à 15%
D'accord.
du périmètre total.
Dans un portefeuille global d'investisseurs aujourd'hui,
sur tout le private assets,
c'est ça, tout actif privé.
La proportion a doublé.
Oui, mais ça veut dire que ce capital naturel, là, il a ce segment de marché, il y a un face à ça des besoins, une profondeur de marché qu'on peut imaginer demain qui amène le capital naturel à être, je ne sais pas, aussi gros que d'autres segments des actifs privés au sens large.
Alors pourquoi pas, c'est un monde qui est en train de s'organiser, s'institutionnaliser. Alors ce n'est pas nouveau, investir dans les forêts est quelque chose de nouveau, mais nous, notre positionnement, c'est qu'on peut le faire d'une manière durable. Et les investisseurs, vraiment, ça répond à plusieurs objectifs pour eux. Le premier, ça va être un objectif vraiment de respect de la biodiversité, de l'écosystème. Nous, on a vraiment une volonté chez BNP Paribas Asset Management d'avoir une gestion durable des forêts, donc de préserver, de ne pas être complètement en défrichage, de préserver, de laisser justement les animaux circuler librement à certains endroits, de respecter la biodiversité. D'autre part, de permettre de réduire l'empreinte carbone de ces investisseurs, puisqu'on est sur la forêt, qui par construction est négatif.
Et plutôt un peu, c'est ça, oui.
Exactement. Et en plus de ça, bénéficier de l'appréciation en fait, de cette ressource rare, qui est vraiment reconnue comme rare, est essentiel. En plus de ça, cerise sur le gâteau, on peut aller toucher des rendements récurrents, pas nécessairement attendre l'appréciation des 10 biens, puisqu'on va là, en l'occurrence, si on parle de la forêt, aller investir dans du bois, une matière qui, derrière, va être utilisée, par exemple, pour construire des habitats, et donc continuer, justement, à remplacer et à réduire l'empreinte carbone et à atteindre nos objectifs, justement, de réduction carbone.
C'est plus une logique de rendement qui anime les investisseurs dans ce cas du capital naturel.
Mélange des deux. C'est vraiment répondre à leur prérogative écosystème, biodiversité, et pour autant, aller avoir un rendement récurrent et en plus une protection contre l'inflation, puisqu'on va bénéficier en fait de la valorisation de cet actif et de sa rareté.
Un actif réel, oui, bien sûr.
Exactement.
Merci beaucoup, Alexandra. Merci d'avoir apporté tous ces éléments d'analyse et d'observation sur ces marchés d'actifs privés. Effectivement, on ne l'a pas noté, mais un des gros sujets, c'est quand même l'accès à l'information. Dans ce monde du non-coté, agréger, retrouver les données, accéder à l'information, c'est un parcours un peu plus compliqué que dans le monde liquide et coté. Merci d'avoir été là pour nous, directeur des relations investisseurs Private Assets chez BNP Paribas Asset Management.
Merci.